Lors de cette intervention, je vous présenterai ma vision, et j'insiste sur ma vision, d'une libre adaptation de Macbeth créée en 2001 à Avignon par la troupe du Théâtre du Centaure. La spécificité de cette troupe, c'est que les acteurs sont des centaures, c'est-à-dire des êtres mi-homme, mi-cheval. L'acteur est défini par une addition fondatrice d'un humain et d'un équidé pour former une entité. L'équation 1 plus 1 égale 1 est celle qui est donnée comme base à l'existence du centaure par la compagnie elle-même. La tragédie de Macbeth s'ouvre sur les prédictions de sorcières qui annoncent à Macbeth, un chevalier glorieux, qu'il deviendra seigneur de Cawdor, puis roi à la place de Duncan. Il s'avère que la première prédiction se réalise lorsque Duncan promet au rang de seigneur Macbeth, et la deuxième lorsque Macbeth, épaulé de son épouse, Lady Macbeth, tue Duncan dans son sommeil. Parce qu'il tue Duncan dans son sommeil, Macbeth ne trouvera plus le repos de l'âme et sombrera progressivement dans la folie. Lady Macbeth connaîtra elle aussi le trouble de l'âme et elle sera frappée de somnambulisme. Le cheminement tragique trouvera son terme dans la mort des deux époux. Macbeth, après qu'il ait effectivement vu la forêt de Dunsinane avancer, comme lui ont prédit les sœurs sauvages lors de la deuxième entrevue, périra et le trône retournera aux héritiers de Duncan pour rétablir les choses, comme annoncé dans les prédictions initiales des sorcières. Cette pièce est souvent qualifiée de pièce problématique par la critique et une des difficultés, à mon avis, réside dans la monstruosité omniprésente. Dans un premier temps, je vous propose de vous démontrer que la spécificité des acteurs hybrides donne à voir la monstruosité des personnages de Macbeth. En effet, dans la pièce, tout est inversé, chamboulé, rien n'est plus que ce qui n'est pas. Dès le début de la pièce, les choses sont dites « fair is foul and foul is fair ». L'infect est beau et le beau est infect. Nous verrons que la nature n'est plus naturelle et l'acteur centaure, une entité monstrueuse, est certainement un bon outil pour incarner ce dérèglement. Comme le dit le médecin, et c'est votre première citation, « A natural deed do breed unnatural troubles ». Des actes contre nature entraînent des troubles contre nature. Nous essaierons également de traiter les occurrences du vocabulaire équestre dans le texte de Shakespeare. Ensuite, parce que les centaures sont des êtres mus par une partie équidée, il conviendra de s'intéresser aux races et aux allures utilisées dans la pièce. Il s'agira de voir s'il y a une forme de correspondance qui s'établit entre les allures, les figures de manège et les techniques dramatiques présentes dans le texte de Shakespeare. Évidemment, il s'agira de voir, à mon avis, il y a déjà une correspondance qui est établie, mais on peut essayer d'avoir un suspense. Et enfin, dans un dernier temps, je vous proposerai de revenir sur des scènes qui, à mon avis, sont emblématiques, pour mettre l'accent sur la nouvelle dimension offerte par la nature même des centaures et sur les extensions qu'elles ont apportées au travail de Shakespeare par le travail du Théâtre du Centaure. La pièce de Macbeth est une pièce jacobéenne, c'est-à-dire qu'elle a été créée. La date pose problème, mais on va accepter que c'est en 1606. Elle a été jouée devant Jacques Ier, qui était d'abord roi d'Écosse, puis roi d'Angleterre. Et son origine écossaise donne un côté exotique, maléfique, légendaire au personnage. Sa femme, Anne du Danemark, elle ne parlait qu'un anglais très approximatif, et il fallait donc... Au dramaturge, utiliser des moyens très visuels et spectaculaires pour que la compréhension du propos soit effective. Et donc, régulièrement, il y a des éléments de surnaturel qui étaient insérés dans les pièces. On pense aussi à l'ours dans le conte d'hiver qui vient dévorer Antigonus, etc. Du coup, pour l'adaptation qui nous intéresse, il y a un chapiteau qui a été créé. Un chapiteau spécial. Alors, chapiteau parce que la troupe du Théâtre du Centaure revendique des origines circassiennes et le lien entre le cirque et l'Angleterre et le spectacle en Angleterre, c'est peut-être le fait que le cirque a été créé tel qu'on le connaît, a été créé vers 1770 par Philippe Astley dans les faubourgs de Londres. Et la piste circulaire qu'on a aujourd'hui au cirque est en fait... hérité de la distance d'une chambrière qui permet le travail à cheval sur la piste. Donc ce chapiteau a été créé par l'architecte Patrick Bouchain, qui dit bien qu'il a été inspiré par le Théâtre du Globe et le travail de Peter Brook au Bouffe du Nord précédemment. On aperçoit un fond de scène traditionnel, comme au théâtre, qui permet au public d'être face au monde. La piste de 13 mètres qui est en bas là, donc l'héritage du cirque et le travail du cheval. Et puis tout ça est surplombé par une piste annulaire qui mène sur une porte haute. Ça permet, et c'est une volonté de l'architecte, au public d'être à la fois face au monde et dans le monde, puisqu'ils sont encerclés à certains moments. Le sol de ce chapiteau était également un élément amplificateur du bruit des sabots des chevaux, et ça permettait notamment d'entendre l'allure du pas à 3 temps, l'allure du trot à 2 temps et l'allure du galop à 4 temps. Et on verra qu'il y a quelques correspondances avec la métrique dans le texte de Shakespeare. Et enfin, il y avait une volonté de gérer la lumière aussi, toujours avec l'inspiration du théâtre du Globe et de toute cette période. Il y avait une volonté de gérer la lumière, et il y avait une gestion de la lumière naturelle par une lentille centrale qui est au-dessus de la piste centrale, ce qui permettait à... en fonction de l'heure à laquelle la représentation était faite. Ils choisissaient en général à la tombée de la nuit pour qu'on tombe dans la nuit au fur et à mesure de la pièce. Et donc il y avait cette lumière naturelle qui était ajoutée à la lumière artificielle par des projecteurs de façon un peu plus traditionnelle dans le spectacle. On sait que une partie de la monstruosité du monde de Macbeth passe aussi par cette lumière entre chien et loup. Et c'est la deuxième citation. Macbeth, à un moment de la pièce, pose la question à Lady Macbeth. What is the night? Almost at odds with morning. Which is which? Cet écrin que représentait le chapiteau était peuplé de centaures, donc une partie humaine additionnée à une partie équine pour former un acteur. Et une des spécificités, ou un centaure un peu plus original que les autres, est celui qui incarnait le rôle de Banquo et Fléance. Donc, selon les dires de la sœur sauvage, des sorcières de Macbeth, Banquo apparaît comme énigmatique par sa destinée. Il ne sera pas roi, mais il sera père d'une lignée de rois. Et seuls les événements qui suivent permettront de comprendre cette prédiction en forme de devinette basée sur une ambiguïté. Au théâtre du Centaure, l'ambiguïté était donc donnée à voir. Une moitié équine porte 2 moitiés humaines, Banquo et Fléance, le père et sa lignée qui font corps. Cette figure extraordinaire donne forme à la monstruosité symbolique de Banquo, qui existe davantage en tant que lignée qu'en tant que personnage dans la tragédie. Il sera assassiné sur les ordres de Macbeth, mais sa lignée lui survivra puisque son fils, Fléance, échappera au meurtrier. La monstruosité, la vraie, arrive avec l'acte horrible par excellence qu'est le régicide, où Macbeth, assisté de son épouse, tue le roi pour devenir roi, et du coup ça permet de réaliser les prédictions. Et c'est ce qui permet à la pièce de basculer de l'apollinien vers le dionysiaque et de l'inscrire complètement dans une tragédie. Cet acte horrible qu'est le régicide doit être mis aussi au crédit de Lady Macbeth. Il y a plusieurs lectures qui sont proposées. On la présente comme quelqu'un de très aimante vis-à-vis de son époux. On la présente comme manipulatrice, enfin peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a son rôle à jouer dans ce crime. Elle apprend au début de la pièce le retour de bataille de son époux. Et aussi sa promotion au statut de seigneur de Cawdor. Elle se réjouit de la progression opérée par son mari, mais elle a peur aussi de sa facette lactée et un peu douce qui pourrait l'empêcher de commettre le crime. Elle redoute que celui-ci ne trouve pas l'audace nécessaire pour arracher le titre aux héritiers de Duncan, et elle craint donc que cette nature lactée l'empêche d'exprimer sa personnalité noire et monstrueuse. Elle lui dit « Yet I do fear thy nature. It is full of the milk of human kindness to catch the nearest way. » Le lait dans la pièce semble revêtir un sens particulier, et il permet d'évaluer notamment la bonté, la générosité ou la loyauté de certains personnages. Lorsqu'elle veut s'assurer d'être l'objet d'une déshumanisation nécessaire à la réalisation du meurtre, Lady Macbeth implore les esprits de dénaturer le lait maternel. « Come to my woman's breasts and take my milk for gall. » Transforme mon lait en fiel. La remise en cause de la virilité et le questionnement sur la nature de l'homme qui est en lui offrent aussi un angle d'attaque à Macbeth. S'il est homme d'honneur, comme il semble savoir le prouver en montrant bravoure et fiabilité au combat, comment peut-il revenir sur sa parole et ne pas aller plus loin dans le plan ? Lui qui revient glorieux de la bataille contre l'ennemi, qui a tué sans faillir les soldats, comment peut-il se dédire et ne pas assassiner le dernier individu qu'il maintient hors du trône ? Il lui dit « We will proceed no further in this business ». L'affaire semble le dépasser. Il est conscient que de tels actes auront des conséquences horribles, tant sur la gestion du royaume que sur ses relations personnelles, et il refuse de se laisser aller à l'innommable. Il ne se sent pas l'envergure de commettre ce crime, et il utilise pour ça une figure équestre qui est celle du clown qui passe de l'autre côté du cheval en essayant de monter dessus. Et cette figure équestre qui était inscrite dans le texte sera reprise dans l'adaptation, mais avec un autre personnage qui est celui du fou, qui est le portier des enfers. Macbeth refuse donc son refus d'aller plus loin dans le meurtre. Et elle ne comprend pas ce revers de médaille. Elle met donc en cause sa nature d'homme et sa virilité. Et elle déclare qu'elle serait capable, s'il y avait besoin, de devenir monstrueuse. « I have given suck and know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, and I so sworn as you have done to this. » Capable d'arracher le bébé qui est en train de téter à son sein, lui arracher les gencives, si elle l'avait juré. Sensible aux efforts déployés par son épouse, et conscient que ce qu'il est sur le point de faire ne peut être l'œuvre d'un homme, même si c'est celle d'un monstre, Macbeth se laisse finalement convaincre. Il fera, contre bonne fortune, mauvais cœur, puisqu'il est déjà prêt à endosser le destin royal que lui ont prédit les Weird Sisters. Il se cachera sous le masque hypocrite des vrais sentiments et donnera l'apparence d'honorer son hôte pour mieux prendre sa place. « False face must hide what the false heart doth know ». C'est donc dans l'univers caché et hors scène que le régicide se déroulera dans l'adaptation du Centaure. Le crime, qui n'est pas sans conséquence pour ses auteurs, va avoir donc des conséquences et des effets nocifs sur la santé mentale de Macbeth. Au théâtre du Centaure, contrairement à des représentations un peu plus traditionnelles où l'acteur a des gestes de plus en plus erratiques, un débit qui est accentué, qui va avoir une voix qui va devenir de plus en plus puissante pour marquer la colère et la folie, c'est par l'aspect des Centaures qu'on va voir la dégradation de leur santé mentale. D'abord donc Macbeth, qui dans l'acte 1, quand il est chevalier victorieux, rentre de bataille, son cheval est natté. C'est bien sûr un étalon, puisque il faut transférer les qualités viriles de l'étalon au chevalier. Et ses cheveux, à lui, sont également nattés, et il a des perles pour orner et avoir une allure digne de celle d'un chevalier. Ensuite, quand il commence à se dégrader, là, c'est dans une scène où il demande à un meurtrier d'aller tuer Banquo. Son allure est visiblement plus dégradée. Les cheveux sont détachés, les crins des chevaux sont également détachés. Et son haut du corps est beaucoup plus voûté et la position est nettement moins académique. Et on voit un peu de fourberie dans cette attitude. Et enfin, en toute fin de pièce, alors qu'il est en train de se défendre contre une forêt qu'il croit avancer devant lui, quand il est à l'épitomé de sa folie, là l'allure est complètement est dégradée, les cheveux sont bien sûr détachés, il n'a plus de cuirasse, il est torse nu, et puis son cheval il a encore la crinière nattée, puisqu'il est dans le rôle du guerrier qui va livrer bataille contre la forêt, contre ses ennemis. Mais en tous les cas, on a vu l'évolution de sa folie. Une des scènes où également on perçoit le dérangement psychique auquel il est, duquel il est victime, c'est celle de la scène du banquet. Donc, traditionnellement, on organise un banquet au château des Macbeth. Il y a tous les grands du royaume qui sont attablés. On attend juste Banquo qui est parti faire une balade à cheval. Et oui, encore du cheval. Donc, il est parti faire une balade à cheval. Et puis, en fait, pendant cette balade à cheval, Banquo est assassiné par un meurtrier sur les ordres de Macbeth. La décision de Macbeth d'assassiner Banquo provient du fait que c'est le seul témoin des prédictions qui ont été délivrées à Macbeth au début de la pièce. Et donc, dans les représentations traditionnelles, il y a un banquet avec tous les grands du royaume, une chaise qui est vide, et puis Macbeth voit apparaître un spectre. Ça, c'est pour Anne du Danemark qui pouvait percevoir qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Et donc le spectre est là, dans les versions les plus modernes il y a beaucoup de sang, il est blafard, et puis il s'assoit, bien sûr Macbeth est le seul personnage de la pièce qui voit ce spectre, qui vient le hanter à deux reprises, et puis sa femme rassure les grands du royaume, leur dit de rentrer chez eux, met sur le dos de l'alcool que Macbeth a bu cette vision, et puis tout se passe bien. Au théâtre du Centaure, il y avait une volonté, d'abord parce que c'était motivé par un souci pratique, de resserrer l'intrigue autour du couple de Macbeth. Il y avait beaucoup moins d'acteurs, il y avait en fait 8 centaures sur la pièce, et donc la scène du banquet est directement enchaînée après le meurtre de Banquo. Le meurtre de Banquo se passe par un système d'ombre chinoise hors scène, et donc on voit le meurtre s'opérait et tout de suite après le spectre arrivait. Et l'attitude du cheval, de la partie cheval, pardon, de Macbeth montre cette peur et ce dérangement. Le spectre de Banquo qui apparaît, Macbeth qui est là en piste, et vous allez voir les mouvements de sa partie cheval avec des changements de direction très brusques, des départs au galop, pas galop, pas galop, et on voit. Donc tout le dérangement et la peur, l'émotion qui est exprimée.
Qui a fait ça? Arrête! Arrête de secouer sur moi des morceaux en sang! Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si tu bouges, alors pas merci!
Voilà, donc le galop, on reparlera des allures un peu plus tard, mais le galop qui est l'allure qu'utilise le cheval pour fuir un danger, qui est là exprimé, et puis ces changements de direction autour des hanches qui marquent cette peur. Le dernier élément dans la chronologie qui montre le dérèglement de la santé mentale de Macbeth, c'est l'épisode de la forêt qui avance. Donc Macbeth sait depuis sa seconde visite à la sœur sauvage que le seul danger et l'ultime danger viendra de la forêt qui avance. Macbeth est retranché à Dunsinane, il est encerclé par les grands du royaume qui veulent reprendre le royaume au régicide. Et Malcolm, son ennemi, en bon stratège, décide de camoufler ses soldats derrière des branches d'arbres. Et donc, ces soldats qui avancent donnent la vision d'une forêt qui avance. Macbeth, lui, avait eu la prédiction des sœurs sauvages et voit cette forêt qui avance et se dit que ça y est, il est au dernier stade de ces choses. Pour se défendre devant cette forêt qui avance, au théâtre du Centaure, il fallait trouver un élément qui rappelle la guerre. Et donc, selon l'équitation académique qui a été codifiée par François Robichon de la Guérinière, ici, sous Louis XIV, il y a une figure qui s'appelle la cabriole, qui consiste à faire une ruade, comme on peut le voir dans les représentations du cadre noir de Saumur, etc. Et Macbeth, quand il voit la forêt avancer, dans l'adaptation du Centaure, adopte et utilise cette figure de dressage issue de l'art de la guerre pour combattre la forêt.
la langue. Ton histoire, vite. Au grâce Seigneur, je vous le jure. Qu'est-ce que c'était? Je l'ai vu. Je ne sais pas comment le dire.
Eh bien, parle.
Je regardais vers Birnam. Et tout à coup, ma parole, la forêt, a commencé à bouger.
Voilà, donc la façon de combattre la forêt par une figure de dressage de haute école. Après cette forêt qui avance, Macbeth agonisera. Donc on voit là sa déchéance ultime. Et tout est fini. Macbeth n'est pas le seul auteur du crime, et donc il ne sera pas le seul à avoir une dégradation mentale. Lady Macbeth l'a aidé dans son œuvre, et on voit au fur et à mesure de l'évolution de la pièce l'évolution de son intégrité physique ou de son apparence physique, qui comprend bien sûr la partie humaine et la partie cheval. Au début de la pièce, elle accueille son mari victorieux, Great Glamis, Worthy Cawdor, Greater Than Both, et prend aussi connaissance dans la lettre qu'il lui envoie avant de rejoindre Inverness, leur maison, des prédictions de la sorcière qui disent qu'il deviendra roi à la place de Duncan. Elle comprend tout de suite que ça ne se fera pas de façon naturelle et qu'il faudra utiliser de l'inavouable pour réaliser cette prédiction, et donc le meurtre de Duncan. Et elle décide donc d'être complice de ce meurtre. Pour être complice, il lui faut invoquer d'abord des esprits maléfiques qui l'aideront à parvenir à leur fin, et elle demandera donc de la dénaturer en tant que femme, de retirer toute la féminité et toute l'humanité qui l'empêcherait de commettre le crime. Come, you spirits that tend on mortal thought, and sex me here and fill me from crown to the toe, top full of dearest cruelty. Venez, esprit du mal, désexez-moi ou retirez-moi mon sexe et remplissez-moi de toute la cruauté nécessaire. Et au théâtre du Centaure, cette scène où elle invoque les esprits maléfiques devait trouver une représentation monstrueuse. On devait basculer vers quelque chose de monstrueux. Et voilà l'apparence qu'avait Lady Macbeth lors de cette scène des esprits du mal. Si on était habitué depuis le début de la pièce à ce à quoi ressemblait un centaure, c'est-à-dire un homme sur un cheval, on arrivait à peu près à comprendre. Quand Fléance et Banquo arrivaient, on se disait « Ah tiens, c'est quand même quelque chose de bizarre ». Et là, on avait vraiment quelque chose de monstrueux. La captation des images montre le mouvement, et c'est une vision assez déroutante. Ça, c'est la deuxième étape de l'évolution de la représentation et de l'incarnation de Lady Macbeth. La dernière étape, après le meurtre, comme je vous le disais, elle aussi connaîtra un dérèglement du sommeil sous la forme du somnambulisme. Et donc, là encore, l'apparence du centaure devait évoluer. Là, elle convainc Macbeth de la nécessité du crime. Et puis, voilà, quand elle est atteinte de somnambulisme, son apparence. Elle est en poste hongroise, donc c'est le fait d'être debout sur un cheval, avec un costume qui n'a plus la même couleur. Elle est dans quelque chose qui est un peu plus onirique, et pour une image du somnambulisme qui est un dérèglement du sommeil, je trouve que c'est quelque chose d'assez adroit. La dernière étape de son évolution physique et son apparence, c'est celle-ci, c'est une deuxième scène du somnambulisme, c'est la fameuse scène où elle veut effacer le sang du crime de ses mains. Et le centaure avait choisi de ne pas mettre de sang dans ce crime. Manolo, le co-créateur de la compagnie, dit que soit on met des hectolitres de sang, soit on n'en met pas du tout. Ils avaient choisi de ne pas en mettre du tout, et donc là vous ne voyez pas de sang, et pourtant elle est en train de se frotter les mains et d'essayer d'enlever le sang qui la hante, en fait, la culpabilité qui la hante sous la forme de ce sang dans son somnambulisme. Et chose assez remarquable, on voit là le centaure qui est déstructuré. la partie humaine n'est plus sur la partie cheval, et c'est ce que la compagnie appelle un démembrement. On verra qu'il y a plusieurs exemples de démembrement dans la pièce, et c'est toujours des moments assez significatifs au niveau de la dramaturgie. Donc voilà pour la monstruosité des centaures qui servent la monstruosité de la pièce. On va maintenant s'intéresser aux occurrences du cheval et du vocabulaire du cheval dans le texte de Shakespeare. Quand j'ai fait mon Master 2, ça a été un de mes premiers travaux d'essayer de repérer les occurrences du mot cheval ou du vocabulaire du cheval. Et en fait, ça revient à 11 occurrences. Et la troupe du théâtre du Centaure dit bien que leur volonté n'était pas du tout de parler de cheval, parce que quand on parle d'un cheval, pour eux, on ne parle plus d'un centaure, mais on parle d'un cheval et d'un cavalier, ce qui n'est absolument pas le but qu'ils recherchent, et ils recherchent exactement l'inverse. Et néanmoins, j'ai essayé de voir quelles étaient les occurrences dans la pièce qui pouvaient justifier une mise en selle de la pièce. La première occurrence, c'est dans le premier acte, quand Duncan parle de Macbeth, donc le roi, qui parle de son chevalier victorieux et qui dit de lui « He rides well ». Le guerrier émérite, Macbeth, se doit de bien monter à cheval. C'est ce que le centaure aidait à démontrer sur la piste. Lorsque Duncan fait l'éloge de la célérité avec laquelle Macbeth se déplace, il met en avant ses qualités de cavalier. Si vous regardez la citation, donc Duncan wears the vein of Cawdor, we coasted up the hills and had a purpose to be his purveyor, but he rides well. And his great love, sharp as his spur, hath hold him to his home before us. J'ai mis en gras les mots qui avaient rapport avec le cheval, donc course, bien sûr, hein, on l'a couru derrière lui. Heels, donc les talons, qui marchent aussi pour le cheval. He rides well, il monte bien. Et puis, he's as sharp as his spur, il est aussi aiguisé que son éperon. Et donc, on voit bien que des qualités de cavalier faisaient partie des qualités d'un chevalier. Il est bien évident que le cheval était présent dans la pièce parce que c'était le moyen de transport le plus commun à l'époque de Shakespeare, mais la façon de dresser le cheval, de monter le cheval, de se servir du cheval servait de piédestal aux nobles, notamment dans tout ce qui est portrait, etc., et ça permettait de mettre cette personne au-dessus du lot. Dire qu'un homme monte bien, c'est dire qu'il a la noble capacité à maîtriser son cheval et à savoir solliciter l'animal pour en utiliser toute la force et l'énergie afin de se déplacer au plus vite. L'animal valorise alors l'homme et l'époux. C'est une bonne façon pour Duncan de placer sa visite chez les Macbeth sous de bonnes augures. Malheureusement, ça ne va pas exactement se passer comme il en avait l'intention. La deuxième occurrence du cheval, c'est dans les prédictions qui ont été faites. On dit que les chevaux de Duncan, qui étaient des meilleures races et de dressage le plus précis, puisque c'était des écuries royales, ces chevaux donc sont redevenus sauvages. La terre a tremblé, il y a eu du vent, il y a eu de l'orage, et les chevaux dans les écuries ont commencé à se manger, en fait, à redevenir cannibales. Et il y a tout cet aspect sauvage qui, dès le début de la pièce, est annoncé, et qui donne bien à comprendre que cette pièce va être une tragédie. Dans la captation de la pièce du Théâtre du Centaure, qui a été diffusée sur Equidia, dès le générique, en fait, il y avait ce choix de rappeler ce mauvais présage qu'étaient les chevaux qui redevenaient sauvages et s'entremanger. Donc je montre le générique.
Éclair ou pluie, nous serons réunis. nuit, quand le vacarme aura cessé, quand la bataille sera perdue et gagnée, avant le coucher du soleil, sur la lande, là, je trouverai Macbeth.
Ça correspond, à mon avis, à ce qui était dit dans le texte, et je vous ai mis la citation de Ross, qui est un homme du royaume de Macbeth, et qui dit « And Duncan's horses, a thing most strange and certain, beauteous and swift, the minions of their race, turned wild in nature, broke their stalls, flung out, contending against obedience, as they would make war with mankind. » Donc on voit bien cette rébellion des chevaux qui annonce le tragique. Une dernière occurrence du vocabulaire du cheval qui, à mon avis, a été traitée de façon assez adroite par l'adaptation du théâtre du Centaure. Dans la pièce, on annonce chevalier Banquo par son cheval. Et c'est la citation que je vous ai mise en dessous. « Hark, I hear horses ». Donc on voit bien l'allitération en H qui permet d'amener du bruit. Et un chevalier, parce qu'il est toujours à cheval, etc., etc., est annoncé par son cheval. Dans l'adaptation de Macbeth, on voit ici une image d'une conversation entre un serviteur de Macbeth et le meurtrier de Macbeth. Et en fait, le public, comme vous, était face à cette scène où deux chevaux tenait conversation, on entendait la conversation par la voix des acteurs, avec en jouant sur les rênes et sur le mort, les chevaux donnaient l'impression de faire un playback de cette conversation, et je trouve que c'est une espèce de clin d'œil à ce son qui annonce les chevaliers, et à ces parties équestres, ou équines plutôt, pardon, qui prennent la place de du personnage. Voilà, je trouvais que c'était quelque chose d'assez adroit qui avait été réalisé par le Théâtre du Centaure. La dernière occurrence du vocabulaire équestre, qui, à mon avis, c'est la dernière chronologique dans l'adaptation du Théâtre du Centaure, c'est pas la toute fin de la pièce, mais c'est le moment de la mort de Macbeth. Et en fait, Shakespeare, dans son texte, offrait une porte de sortie à cheval à son héros. C'est la dernière citation de la première page, là. Macbeth dit « I begin to be weary of the sun and wish the estate of the world were now undone. Ring the alarm bell. Blow, wind, come, rack. At least we'll die with harness on our back. » Et donc là, Macbeth, qui ne peut plus supporter cette folie et ce royaume qui est complètement défait, undone, trouve comme consolation de au moins mourir avec le harnais sur le dos. Et le Théâtre du Centaure avait choisi de mettre terme à leur pièce ici. On se souvient du resserrement autour du couple de Macbeth qu'ils avaient souhaité dans leur adaptation. Et les dernières images que le public pouvait voir de la pièce, c'était celle-ci, celle de Macbeth qui, at least, died with harness on his back. Je vais maintenant vous parler des allures et des figures, puisque le cheval était un des accessoires de scène de par la nature des centaures. Une des influences de l'adaptation par le centaure, ça a été une version filmique de Kurosawa, de Macbeth, qui s'appelait « Le château de l'araignée ». Et donc, on a beaucoup de références à l'univers du Japon médiéval que Kurosawa avait choisi pour placer sa pièce. Notamment par les costumes. Donc là, on voit Duncan, qui est le roi que Macbeth va tuer pour prendre sa place. Il porte cette cuirasse en cuir. Il a également une perruque en crin lavé. On ne sait pas trop si c'est des cheveux ou des crins lavés, mais en tous les cas, il fait corps avec son cheval. La couleur de ses costumes est en harmonie avec la robe alezan du cheval, l'alezan au crin lavé qui rappelle la perruque qu'il a. Enfin, tout ça fait corps. Et donc là, on voit bien que la partie cheval permet d'avoir une entité réelle pour chaque personnage. Macbeth et Banquo étaient aussi avec ces mêmes tuniques cuirassées en cuir qui rappellent le Japon médiéval. Duncan, lorsqu'il quittait le monde des vivants, son spectre apparaissait à Macbeth et Banquo. Je vais vous montrer la vidéo. Donc voilà le spectre, on reconnaît Duncan. Là encore, il a quitté la cuirasse, il a quitté le monde des vivants. Il y a un maquillage qui le rend complètement blafard. Il est toujours sur cette même partie cheval qui est un cheval lourd. Et le cheval lourd, c'était bien sûr le cheval le plus laborieux, celui qui servait aux paysans, les travaux de la terre, etc. Et je trouve que le choix de cette race de cheval pour asseoir d'abord un roi, son pouvoir, une stabilité, et puis aussi pour rappeler la valeur psychopompe du cheval qui est censé, dans certaines civilisations, transporter l'âme. Psychopompe, il transporte l'âme des morts dans l'au-delà. Et donc, je trouvais que le choix de cette race de cheval lourd permettait de bien marquer cette fonction. Vous remarquerez qu'il passe de la piste de 13 mètres, donc qui est celle, la piste basse, qui représente la terre, et il utilise la piste annulaire. Donc là, il est sur la piste annulaire qui permet de s'élever, c'est l'élévation de l'âme. On quitte le monde des vivants. On a aussi les gongs, etc., qui donnent à l'ambiance. Donc voilà. Le cheval lourd, puisqu'on est dans les races, juste une petite remarque. Duncan, donc il est sur ce cheval lourd, là il est encore roi et vivant. Et on remarque aussi que les crins de la crinière du cheval est nattée, parce qu'il se doit d'avoir un aspect soigné. Et chose assez originale, c'est prolongé par deux, je ne sais pas comment appeler ça autrement que des pompons, mais vous verrez ce que c'est. Et en tous les cas, ça passe de chaque côté de l'encolure, et là encore, on marque toute la stabilité, l'assise du pouvoir, c'est ça, la stabilité du régime et du royaume avant que Macbeth ne décide de monstrueusement tuer ce roi. Le cheval lourd était aussi utilisé pour un autre centaure qui jouait le rôle du meurtrier de Macbeth. On voit là son attitude un peu voûtée qui marque une forme de soumission. Il est dans un face-à-face avec Macbeth où Macbeth lui demande de tuer Duncan. Et il est sur ce cheval lourd. Je crois aussi que ça montre une forme de soumission et de loyauté, même si c'est dans l'horrible, cette espèce de loyauté qui ne sera pas trahie vis-à-vis de Macbeth qui commande le crime. Là encore, un cheval lourd, laborieux, celui qui va réaliser les choses et sans faillir à son devoir. Macbeth maintenant et sa partie cheval. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Macbeth, quand il est guerrier, se doit d'être sur un étalon et non pas sur un ongre. Je crois que vous avez eu une intervention sur les portraits de. Évidemment, le fait d'avoir le portrait de gens nobles passé par la représentation sur un cheval entier ou un étalon, si on voulait un peu insulter la personne, on mettait un cheval ongre, puisqu'il manquait quelque chose, ou pire, une jument. Donc Macbeth, bien sûr, au théâtre du Centaure, chevalier et guerrier qui revient de guerre, et sur un étalon. Lady Macbeth va aider Macbeth dans l'acte monstrueux, et là on utilisera aussi pour Lady Macbeth un cheval entier. Donc on a deux chevaux qui sont complètement jumeaux, que sont Darwin, qui est un étalon frison, et Graal, qui est son jumeau frison, deux mâles entiers, et c'est des races hollandaises issues du trait. Du cheval de trait. cette gémellité entre les deux parties cheval est, on le voit, accentuée par l'harmonie des costumes des deux parties humaines. Et puis, pour aller un peu plus loin dans l'osmose qui est faite entre la partie humaine et la partie cheval de ces deux personnages, Macbeth, à ce moment-là, a les chevaux nattés et son cheval a la crinière nattée. À l'inverse, Lady Macbeth a les cheveux détachés et la crinière de son cheval est également détachée. Mais c'était la seule différence qu'on voyait. Tout à l'heure, je vous disais que Lady Macbeth, quand elle veut devenir monstrueuse, elle demande aux esprits du mal de dénaturer son corps. Elle utilise le terme « unsex », donc de la désexuer ou de lui enlever son sexe et de transformer son lait en fiel. Je crois que le fait d'avoir deux étalons dans la partie cheval permettent de donner un espèce de côté hermaphrodite et complètement égal aux deux parties que forme ce couple. Et je pense que ça n'aurait pas du tout été la même vision du couple et de leur association dans le crime de façon très symbiotique comme ça, si on avait eu un étalon pour Macbeth et une jument prête du sang très fine pour Lady Macbeth. Cette étape de l'intrigue, on voit que le cheval et la race du cheval et le modèle du cheval sert aussi d'éléments significateurs pour le percevoir la personnalité des personnages ou en tous les cas le statut des personnages. Un dernier centaure qui, à mon avis, est intéressant de voir est celui de celui-ci. C'est le centaure. Les centaures s'appellent par leurs deux parties. Et donc cet acteur qui faisait partie de la pièce, qui jouait le rôle du portier des enfers, le fou, enfin cette en deçà des Macbeth dans la hiérarchie sociale telle qu'elle était. Mise en place à l'époque de Shakespeare. Donc c'est David Coco. Et quand on voit ce centaure, là encore, le choix de la race de la partie équidée nous donne une idée tout de suite de qui est ce personnage. C'est pas un cheval, c'est un âne, c'est un baudet du Poitou. Et c'est pas un cheval qui est toiletté, etc. C'est un baudet du Poitou qui a des crins très longs. Et là encore, le costume de la partie humaine est en parfaite harmonie avec ses haillons, cette perruque un peu qui donne le côté dreadlocks. On ne sait pas si c'est, ça correspond exactement au long poil de l'âne qui n'a pas été toiletté. Enfin, on comprend tout de suite que celui-là n'est pas un noble. Et en l'occurrence, il jouera le rôle donc du fou et du portier des enfers. En ce qui concerne Macbeth, y a, à mon avis, un petit souci. C'est que Macbeth est le seul centaure qui voit sa partie cheval changer au cours de la pièce. Et le théâtre du centaure, dans un manifeste que vous pouvez consulter sur leur site internet, théâtreducentaure.org, j'imagine, dit que le cheval et la partie humaine ne font qu'un et que les deux jouent, etc. Et j'ai trouvé dommage que la partie cheval change pour le personnage de Macbeth pendant la pièce. Ça montre un peu les limites de l'utilisation du cheval. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il a fait avec le frison noir que je vous ai décrit. Si vous vous souvenez, pendant la scène du banquet où il y avait les apparitions, il montait un autre cheval. Et là, c'est la contrainte équestre ou la contrainte de dressage qui est, à mon avis, à l'origine de cette modification. Et du coup, Macbeth, il a trois parties chevalines pendant la pièce. Il a d'abord cette partie qui est un étalon Ortegon Costa, donc c'est un cheval portugais, une race de cheval portugais. Ça, c'est quand il est guerrier au début de la pièce. L'avantage pour la représentation de Macbeth à ce stade de l'intrigue, c'est que c'est un étalon, c'est une race qui a une encolure qui est très forte, donc ça marque bien le côté chevalier du centaure. Ensuite, donc, comme vous le connaissez celui-là déjà, c'est Graal, donc c'est le frison hollandais qui va servir pendant le crime, un peu avant le crime. Et puis, enfin, quand Macbeth doit exprimer une forme de perturbation, de peur, de nervosité. Il utilise ce dernier étalon qui est une race un peu plus près du sang et qui permet d'avoir des allures beaucoup plus rebondies et des gestes un peu plus brusques pour marquer la peur ou la folie qui gagne petit à petit Macbeth. Donc voilà pour les races de chevaux. Je vais maintenant vous parler des allures qui ont été choisies pour les différents temps de l'adaptation. Donc je reviens à notre célébrité locale, François Robichon de la Guérinière, qui dans la classification de ses allures au XVIIe, sous Louis XIV, codifie les allures, et il codifie les allures de deux façons. Il parle des allures naturelles, que sont le pas, le trot, le galop, et puis les allures artificielles, que sont le piaffé et le passage. Bien sûr, des allures artificielles, ce sont des allures qui ne sont pas naturelles, et le théâtre du Centaure, dans des moments d'expression contre nature, utilisera des allures artificielles. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'apparition de la scène du banquet, et on voyait les mouvements comme ça. Il y a aussi des postures qui sont, à mon avis, une bonne prolongation du texte. La première chose, c'est celle-ci. On est au moment des premières apparitions des sorcières, donc c'est seul Macbeth et Banquo qui sont témoins de ces prédictions. Et ils sont complices tous les deux, parce que les seuls témoins de ces prédictions. À cheval, la position des deux chevaux, tête bêche, comme ça, permet une accolade des parties humaines, et on comprend vraiment la complicité qu'il y a entre ces deux personnages. Ils sont en fait en train de se réjouir parce que Macbeth, on vient de lui annoncer qu'il allait devenir roi. Et Banquo, un peu jaloux quand même, dit aux sorcières, mais à moi tu me dis rien. Et c'est la citation. Banquo dit: My noble partner, you greet with present grace and bright prediction of noble having and of royal hope. That he seems rapt withal. Donc là, il dit à la sorcière: mon noble partenaire, tu lui promets un destin royal, des vertus nobles, et de ça il a l'air très content. Et puis le texte marque une pause avec les deux points, et il lui dit à cette sorcière: to me you speak not, mais à moi tu me dis rien. Et donc dans toute mise en scène, on voit bien ici que c'est une codification pour changer d'interlocuteur, et il faut bien que dans le ton, on comprenne qu'il y ait une transition. Au théâtre du Centaure, ils avaient fait quelque chose d'assez adroit. En fait, Banquo parlait, et puis hop, il serrait les poings pour marquer cette pause, qui marquait cette complicité entre Banquo et Macbeth, puisque c'était en fait les deux compagnons de guerre qui sont contents et qui sont très complices. Banquo est ravi pour Macbeth de savoir qu'il va devenir roi, donc on a bien ce geste-là des deux poings liés. Et puis après, hop, cette pause était finie et il s'adressait aux sorcières sur un autre ton. Les deux points là, est-ce que ce sont les deux points dans le texte? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il se trouve que ça coïncide et que je trouvais ça assez intéressant. La position tête bêche des chevaux, là, ou comme ça, donc permet un rapprochement des parties humaines pour marquer cette complicité et cette loyauté infaillible entre les deux compagnons de guerre. Et puis elle est utilisée à un autre moment quand donc ce centaure, qui représente un des serviteurs de Macbeth, apprend la mort de Lady Macbeth. Il est complètement triste et il va voir Macbeth pour se faire réconforter. Et là encore, on veut bien sûr avoir un rapprochement des deux parties humaines. Donc on met ces deux équidés tête bêche. C'est toujours un moment de complicité et de rapprochement affectif de deux personnages quand on a ce tête bêche. C'est aussi la position qu'utilise un poulain quand il veut aller téter sa mère. Donc peut-être que ça rappelle un peu ça inconsciemment, puisqu'on est dans l'imaginaire et le cheval. Voilà. Autre posture qui marque les choses, à mon avis, quand Macbeth est victorieux et qu'il apprend qu'il va devenir Cawdor, il court vers Inverness rejoindre sa femme. Et alors il court, je ne sais pas s'il court, mais en tous les cas il y va au galop. Et il y va dans cette position de voltige en ligne qu'on appelle la poste hongroise. Il est grandi, il est tout ce qu'il y a de plus victorieux. Il donne le cap avec son poing. Enfin, là, on a bien une image à cheval de ce qu'est l'état d'esprit de Macbeth à ce moment-là. Plus tard, Lady Macbeth va tenter de convaincre Macbeth qu'il faut tuer Duncan pour avoir le trône. Et là encore, les postures des centaures sont assez significatives. D'abord, lui dit, mais dis donc, quand tu étais un homme, t'aurais osé faire ça, mais là, t'en es plus un puisque tu n'oses plus le faire. Et donc, ils adoptent cette position. Les chevaux sont côte à côte dans la perpendiculaire, et puis ils se mettent debout sur un étrier, se décalent sur le côté pour pouvoir se faire face, s'affronter et avoir un vrai dialogue où Lady Macbeth essaie de convaincre Macbeth. A priori, elle ose, en tant que femme, se mettre d'égal à égal avec lui, et on le voit dans cette position. Et puis, il y a un moment où elle prend le dessus, où elle finit de le convaincre, et du coup, elle se met en poste hongroise, et là, le domine complètement physiquement. C'est là où il dit « Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire, etc. etc. » On voit qu'elle le domine et qu'elle a le dessus sur lui. Ensuite, tous les deux vont avoir cette posture. Donc, on voit les deux chevaux l'un à côté de l'autre. Macbeth a repris les rênes du crime, et donc c'est lui qui mène les chevaux. Il est debout en poste hongroise. Et Lady Macbeth, elle, est debout entre les deux poitrails des chevaux, et elle montre la direction à suivre comme une figure de proue. Quand ils partent ensemble vers le meurtre, ils partent au galop. Et le galop, comme tout à l'heure quand Macbeth avait peur des apparitions, c'est le galop qui prenait le dessus. Ça semble être l'allure des réflexes qu'on ne contrôle pas. Et là, c'est l'esprit de conquête qui est montré par ce galop qu'il prend. Dans le texte de Shakespeare, quand un roi arrive, on a des trompettes, flourish, on appelle ça, hein, des trompettes, des couleurs et des choses comme ça. Le théâtre du centaure, l'allure qui est choisie, c'est pas une allure naturelle, instinctive, comme l'est le galop, c'est celle du trot. Et par exemple, quand Macbeth a une deuxième apparition des sorcières, on l'a vu tout à l'heure, il avait un réflexe de se mettre au galop comme ça, avec des mouvements un peu erratiques. Et quand il commande au meurtrier le meurtre de Banquo, il utilisera le trot pour se sortir un peu grandi des choses. Comme tout à l'heure, je vous avais dit que le meurtrier, il avait le dos arrondi, une attitude très fourbe, etc. Macbeth, pour lui parler, a cette même attitude du dos rond, qui est absolument pas la position qu'on recherche chez un cavalier. Donc ce dos rond complètement fourbe, il a ce dialogue avec le meurtrier, et puis après il faut qu'il reprenne son habit de roi, et donc il reprend l'allure du roi, l'allure régalienne, ou régale, je sais pas, qu'est le trot. Et là, hop, il revêt son statut de roi et ressort au trot. C'est vraiment l'allure qui... donne le statut de seigneur et la prestance, comme le texte le fait par les flourish. Le trot, c'est aussi l'allure qui est utilisée dans le travail de fond en dressage, parce que c'est la seule allure qui est symétrique à cheval. Et donc, c'est celle qui permet de... à cheval, quand on travaille à cheval, on le travaille au trot quand on veut résoudre les problèmes de déséquilibre ou des choses comme ça. C'est la seule allure symétrique à cheval. Et du coup, c'est aussi l'allure qui va être utilisée pour la médecine dans Macbeth. Il y a deux passages, à mon avis, qui sont assez significatifs. Le premier, Macbeth, qui a paniqué pendant cette seconde apparition, donc toujours avec des départs au galop et des mouvements autour des hanches et des épaules, Il a paniqué pendant la deuxième apparition de la sœur sorcière, et puis il faut qu'il retrouve contenance et il essaie de se rassurer. Et pour se rassurer, il lui faut quelque chose de très rythmé, de binaire, d'équilibrant, et donc c'est par le trot qu'il passe. Voilà. Là, en fait, il est en train de retrouver constance après la deuxième apparition de la sorcière. Il dessine au sol une figure qui s'appelle le 8 de chiffre, c'est-à-dire que vous décrivez une volte, puis une deuxième. C'est vraiment d'abord le symbole de l'infini qui est dessiné sur la piste, et puis la façon de retrouver l'équilibre et de profiter au maximum de la symétrie dans le travail du cheval. Le trot est également donc comme instrument de médecine utilisé quand Macbeth s'aperçoit que tout est en train de se resserrer autour de lui, et donc il sait qu'il y a des ennemis qui arrivent auprès du château, et il sait que sa femme est atteinte de somnambulisme. Donc il se prépare à faire la guerre. Vous allez voir, il est au trot, son cheval est natté, c'est le Macbeth chevalier, etc. Et puis il va voir le médecin qui doit être celui qui va permettre de soigner le somnambulisme de Lady Macbeth.
Donne-moi mon armure. Non, ce n'est pas encore nécessaire. Je veux la mettre. Macbeth. Comment va-t-il?
Pas vraiment malade, monseigneur, mais tourmenté par des visions intenses qui la privent de tout repos.
Donc voilà Macbeth qui commande à la médecine. Si on regarde l'ordre dans lequel ils sont, il y a d'abord Macbeth, puis certainement un homme d'armes, et le docteur qui est derrière. C'est Macbeth qui mène la chose. Là, le médecin vient de dire à Macbeth qu'elle est malade, et donc son statut de roi ne peut rien contre cette maladie. C'est donc le médecin qui va être en charge de soigner les choses. Et chose assez significative, à cheval, la personne qui est devant quand on est en train de dérouler une reprise de dressage, on l'appelle le chef de reprise, et c'est lui qui donne le tracé aux uns et aux autres. Et là, le chef de reprise n'est plus Macbeth, mais c'est le médecin qui devient chef de reprise. Soigne-la, c'est donc à lui qu'il s'en remet. Le patient doit se soigner lui-même, le médecin ne peut rien faire. Résultat, on change de nouveau de chef de reprise, et c'est Macbeth qui refuse la médecine et reprend les choses en main.
J'en veux plus.
Donc vous aurez remarqué les percussions qui sont toujours là pour accentuer le rythme des allures. Et puis... la dernière chose sur le trot que je voulais vous dire, et on va s'intéresser au passage. Donc le passage, c'est cette allure du trot qui est beaucoup plus saccadée, beaucoup plus aérienne. C'est une allure artificielle selon la classification, et donc c'est celle qui va être utilisée lorsque on est dans quelque chose qui n'est pas naturel, et notamment les prédictions des sorcières. Et sur la feuille là, je vous ai proposé la citation suivante: double, le mal est double, et il ne procure que trouble. Et cet endroit, il va venir pour connaître son avenir. C'est ce que disent en partie les sorcières dans la deuxième apparition. En anglais, c'est double, double, toil and trouble. These are he will come to know his destiny. C'est la figure et la métrique de la poésie anglaise par excellence. C'est le vers iambique, où il y a un fort, un faible, un fort, un faible, un fort, un faible. On a cette binarité dans le texte de Shakespeare, et il fallait trouver un moyen pour transcrire cette binarité. Et au théâtre du Centaure, on a donc bien évidemment... Ils ont donc utilisé le trot, ils ont utilisé le passage pour marquer encore plus cet aspect saccadé, et voilà ce que ça donne.
Double, le mal est double. Et il ne procure que trouble.
Donc ça, c'est du piaffé, c'est pas exactement du passage, c'est du piaffé, c'est-à-dire du trop sur place et très aérien. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en équitation portugaise. Il y a une technique qu'on appelle de la plancha, où on met un cheval sur les planches, on le fait piaffer, et comme ça, on entend bien le tac, 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 tac. Ils ne sont pas allés jusque-là. Cependant, on voit bien que le son des sabots est amplifié pour marquer cette binarité. Et donc, il y a des transitions entre le piaffé et le passage, qui est comme du piaffé, mais sauf que le cheval avance plutôt que d'être sur place.
En cet endroit, il va venir pour connaître son avenir par la force des illusions. Il tombera dans la confusion. Il est trouble. Le mal est trouble. Et il ne procure que trouble. Il repoussera peur et mort. Il bravera même le sort. Et il mettra son ambition par-dessus sagesse et raison.
Il y a la petite clochette qui est là.
Sûreté de soi pour mortel, l'ennemi le plus cruel. Il est double. Le mal est double. Et il ne procure que trouble. Il est double.
Je suis désolé d'avoir gâché le plaisir parce qu'en fait, je vous ai forcé à regarder du piaffé, à regarder du passage et donc à regarder quelque chose de très équestre. Ce qui est un défaut énorme quand on veut respecter la philosophie du centaure, qui ne veut pas qu'on regarde un cheval faire du dressage, mais qui veut qu'on regarde un acteur faire. Et en fait, j'aurais dû vous dire que si l'acteur, à ce moment du texte de Shakespeare, insistait avec sa voix sur la binarité que représente le vers iambique, j'aurais pas dû vous dire piaffé, on aurait dû simplement vous laisser percevoir que cette binarité, elle était non pas audible dans le discours, ou pas simplement audible dans le discours, mais visible par les membres inférieurs du centaure. Je suis désolé de vous avoir gâché le plaisir. Donc voilà pour le trot, donc l'allure royale et l'allure artificielle. Et puis la dernière allure, c'est le pas. Donc je vous ai déjà dit tout à l'heure que, et montré que le spectre de Duncan se déplaçait au pas. Duncan, pendant toute la pièce, se déplace au pas. Alors ce n'est pas parce que la partie humaine est trop âgée pour supporter du trot ou du galop, c'est simplement parce que c'était une volonté d'asseoir ce pouvoir et cette stabilité par le pas. Et il y a un deuxième épisode où le pas montre bien cette faculté à donner une tranquillité, un apaisement. C'est après la deuxième apparition des sorcières. Donc Macbeth voit les sorcières, panique, fait son 8 de chiffre au trot au passage pour essayer de réorganiser les choses et de rééquilibrer le tout. Ça marche pas très bien et là Lady Macbeth apparaît en hauteur, donc on voit bien cette notion de la piste centrale basse et de l'anneau et de la porte haute. Et puis, au pas, elle va venir le tranquilliser. J'ai appelé ça une berceuse centauresse. Et vous voyez que c'est au pas que ça se fait. Il y a la petite flûte de la petite berceuse. Lady Macbeth a sa bougie qui guide un peu les choses. Elle tranquillise et apaise le centaure, non pas en s'intéressant à sa partie humaine, mais à sa partie cheval. Et cela se fait au pas. Et vous remarquerez qu'en fait, elle décrit une volte qui est plus grande. En fait, on appelle ça être en piste extérieure, et Macbeth est en piste intérieure. Et ça, c'est pour montrer qu'elle l'englobe, qu'elle le materne. Hein, elle est sous son aile, il est sous son aile protectrice.
Où en est la nuit ? Le jour et la nuit sont mêlés, identiques l'un à l'autre.
Voilà. Il y a aussi des moments où le centaure est arrêté. Le moment le plus significatif est celui où il y a un épisode de métathéâtralité dans la pièce. C'est ce moment où c'est une des citations les plus connues de Macbeth. Je vous l'ai mise. Macbeth qui dit « Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Donc là, c'est une vraie réflexion sur la réalité théâtrale, celle d'un conte qui est raconté par un fou ou par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui, au fond, ne signifie rien. Eh bien, au Théâtre du Centaure, ils avaient choisi, pour marquer l'instant de pause dans la diégèse, d'arrêter la partie cheval. Et donc, c'est bien cette pause qui se fait.
Éteins-toi. Éteins-toi, petite flamme. La vie est une ombre qui marche. Une pauvre actrice qui s'agite et qui pleure un moment sur la scène. Et après, on ne l'entend plus. C'est une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot et qui ne signifie rien.
Le reculé, une des autres allures qui a été utilisée. Donc le reculé, c'est quelque chose d'un peu spécifique en dressage. C'est assez difficile à réaliser parce que la nature animale du cheval qui est toujours qui craint toujours d'être la proie de prédateurs potentiels, le cheval a du mal à reculer. Et le champ de vision du cheval fait que c'est quelque chose de délicat. Et du coup, en dressage, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué à obtenir si on veut avoir un reculé qui soit droit avec une symétrie parfaite. Le cheval a toujours tendance à se mettre de travers pour avoir un champ de vision sur où il va. Dans le Théâtre du Centaure, vous l'avez vu tout à l'heure, lors de la première apparition ou dans la scène du banquet, il y a ce reculé qui se fait pour fuir en fait le danger qui est imminent. Je crois que j'en ai fini pour les races, je crois que j'en ai fini pour les allures. Je vais juste profiter du dernier petit quart d'heure pour vous parler de quelques scènes qui... celle que je disais emblématique du Théâtre du Centaure. Il y avait des points de suspension qui étaient laissés dans le texte et qui du coup laissaient la place à toute mise en scène, et le Théâtre du Centaure a choisi de profiter de cette nature du Centaure et des dimensions que ça pouvait apporter pour combler ces vides qui étaient volontairement laissés dans le texte. Le premier vide qui est laissé dans le texte, c'est Lady Macbeth qui dit à son mari, et c'est la citation, « Hie thee hither, that I may but pour my spirit in thy ear, and chastise with the veiler of my tongue all that impedes thee from the golden round. » Viens que je te souffle dans l'oreille tout ce qui t'empêche du cercle doré. Et c'est là que le metteur en scène met tout ce qu'il veut dans sa lecture de la pièce. Est-ce que Lady Macbeth était une femme manipulatrice qui voulait le pouvoir et qui a forcé son mari à tuer Duncan? Est-ce que c'était une femme complètement aimante et qui allait aider son mari dans l'acte? Et comment est-ce qu'elle fait pour le persuader? Alors, on voit différentes choses. Bien sûr... l'amour peut être et l'amour physique peut être une des armes que Lady Macbeth a utilisées pour convaincre Macbeth de tuer Duncan. Dans le Théâtre du Centaure, ce qu'il y a dans le cercle d'or, c'est ce que je vais vous montrer. Je dois vous dire que c'est comme ça que j'ai découvert le Théâtre du Centaure. Ils étaient à Caen à l'occasion du Jumping de Caen en 2005, et ils présentaient un tableau dans les animations, comme Manolo va le faire au Salon du Cheval le week-end prochain. Vous allez pouvoir le voir interviewé sur les télés, etc. Et donc j'ai vu cette scène et je me suis dit, waouh, c'est joli, c'est enfin quelque chose de différent dans le spectacle équestre. C'est pas des reprises traditionnelle, etc. Et en fait, après, j'ai appris que c'était une scène qui était extraite de l'adaptation de Macbeth, et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler un peu sur leur projet. Donc, qu'est-ce qu'elle met dans le Golden Round? Comment est-ce qu'elle fait pour convaincre Macbeth? Voilà. Donc toujours le tête-bêche pour ce rapprochement avec la notion affective. Là encore, on flatte aussi bien la partie cheval que la partie humaine de Macbeth. J'ai oublié de le préciser, mais là, je suis désolé, je vais vous interrompre ce bon moment régulièrement. Une technique du centaure pour revendiquer et afficher une osmose parfaite entre le cheval et la partie humaine, c'est de ne pas monter avec les rênes en main, comme on le voit habituellement. Et donc, la technique consiste à attacher ici les rênes, et du coup, ça libère les membres supérieurs du centaure. C'est pour ça qu'il fait des arabesques aussi, hein, c'est pour qu'on s'en souvienne, en plus du fait que ça rend tout beaucoup plus beau. Et donc toutes les actions qui sont normalement par les mains sont faites par le haut du corps, où on recule, on avance le haut du corps, et tout ce qui est direction est fait en fait avec l'assiette, c'est-à-dire le bassin, et avec les jambes. Donc les techniques de dressage sont différentes, et le but est que le dialogue interne au centaure, entre la partie humaine et la partie cheval, ne pollue pas le dialogue qu'il entretient avec les autres personnages et avec les spectateurs. Lady Macbeth non plus ne touche pas aux rênes. Alors, je vais, tant pis, c'est comme les tours de magie, je vais vous donner le secret. Pour coucher le cheval, en fait, elle agit avec une badine, hein, qui est une longue cravache de dressage, et elle agit avec la badine qui est sur sa jambe pour que le cheval comprenne qu'il faut qu'il se couche. Dans le travail du Master 2, donc j'avais été voir Madame Schwarz-Gastil en lui expliquant, elle me dit « Ah oui, super, etc. » Et puis je lui montre la pièce, et notamment cette scène-là, et elle me dit « Mais il y a des animaux, il y a de l'amour, c'est un peu... Et en fait, j'avais pas vu, moi, j'avais pas fait attention parce que j'étais habitué à la vision du centaure, mais elle, n'étant pas habituée à la vision du centaure, avait quand même vu ces parties animales et humaines qui se mélangeaient dans une scène d'amour. Alors, je pense que c'est de la zoophilie ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, il y avait bien quelque chose de dérangeant. Et je sais pas si vous, ça a provoqué ça. Si c'est pas le cas, c'est que la magie du centaure a complètement agi. Vous avez intégré que cet être monstrueux pouvait avoir une réalité. Je vais, parce que c'est assez pressé, je vais vous montrer la suite de la scène. Hein, il se relève.
Si c'était fait comme c'est fait, alors il faudrait que ce soit vite fait.
On voit bien là l'utilisation de la gémellité des deux frisons. On est vraiment dans du yin-yang, une complémentarité parfaite. Hein. C'est pour ça, je crois, que c'était... quelque chose de riche que d'avoir les deux mêmes frisons. Donc ensuite, Macbeth se relève.
Et puis son sujet.
Nous n'irons pas plus loin dans le meurtre.
Du coup, il faut que Lady Macbeth le convainque. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
L'espoir qui t'enveloppait.
Elle est d'abord en face à face.
Comme un acte, et on ne pourra pas échouer. Simple à l'ambition.
Elle le domine, et vous verrez que là, elle prend les rênes, en fait.
Dans leur sommeil immonde, leur nature se distillera comme la mort. Dis-moi ce qu'on ne pourra pas faire à ce Duncan sans défense. Dis-moi
ce qu'on ne pourra pas attribuer à ces deux éponges d'officiers qui porteront la culpabilité de notre grand meurtre. Qui osera croire le contraire?
Je suis prêt et je tends toutes les forces de mon corps vers ce terrible exploit.
Et dans toutes les forces de mon corps, il y a aussi la force de Lady Macbeth qui est tendue vers l'exploit. Donc pour la première scène, la deuxième scène c'est celle qu'on appelle les dagues de l'esprit. Donc Macbeth, avant le meurtre, a une apparition et il voit un poignard devant lui qui lui tend la main et il faut qu'il attrape ce poignard pour aller tuer. Et il ne sait pas si c'est un vrai poignard ou une vraie dague ou une fausse dague. Et donc il dit, et c'est dans « Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand. Come, let me clutch thee. Art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat-oppressed brain? » Il ne sait pas donc si c'est une vraie dague ou une fausse dague, ou si c'est son imagination qui lui joue des tours. Et il n'arrive pas à attraper cette dague, bien évidemment, puisque c'est une hallucination. Et dans le texte de Shakespeare, on a un face-à-face entre le « I » et le « the » qui désigne les dagues de l'esprit. Et au théâtre du Centaure, pour amplifier cette tentative d'attraper une dague qui est un poignard de l'esprit, en fait, voilà comment est-ce que c'était fait. En fait, Macbeth tendait la main et le cheval pointait son antérieur comme ça. Donc il y avait une première tentative avec l'antérieur droit. Ça tenait, et puis c'était fragile comme ça. Alors on ne sait pas si c'est le cheval qui avait du mal à tenir ou si en plus ils arrivent à faire trembler le sabot, ce qui serait extraordinaire. Et puis il reposait l'antérieur droit et pof, il tendait l'antérieur gauche pour essayer d'attraper cette dague. Et au-dessus, donc il tendait la main et puis après il se frottait les cheveux comme ça pour montrer que c'était la folie et une apparition qui était en lui. Donc là où un acteur aurait dû tendre la main, dire oh là là, ben ça se faisait en simultané grâce à la dimension du centaure. Le centaure tendait l'intérieur et Macbeth pouvait se toucher la tête pour montrer que c'était une apparition. Donc c'était le deuxième moment assez emblématique que je voulais vous présenter. Le troisième, c'est celle de Lady Macbeth qui vient invoquer les esprits du mal. Elle est en train de jouer avec un creuset et un maillet, et c'est peut-être aussi un clin d'œil aux sorcières qui, au départ, disent qu'elles sont en train de brasser le bouillon Bubble and Trouble. La dernière chose, c'est le démembrement du centaure. Donc, il y a plusieurs moments où c'est utilisé. Le premier moment, c'est la scène du portier des enfers. Donc il est ivre, ce portier des enfers. Et voilà.
Ça, c'est un coup. Si j'étais gardien de la porte de l'enfer, je m'épuiserais à force de tourner la clé. Bon, bon, bon.
On voit là que... il est complètement déstructuré, décalé, démembré, enfin, tout ce qu'on veut, à tel point qu'on a l'impression que c'est l'âne qui guide le bras de l'acteur. Et puis, il parle de l'alcool. L'alcool provoque trois choses.
Et quelles sont ces trois choses? Provoque la boisson.
Dormir, et coucher. Ah. Quant au sexe, monsieur, ça le provoque.
Oui.
Ça le révoque.
Alors, on a vu ce geste-là, hein, pour. C'est efficace, mais le senteur permet quelque chose de plus efficace pour.
Ça empêche l'exécution.
Ça, c'est la figure de Macbeth, le clown qui tombe par-dessus.
Le bois. Et l'équivoque du sexe.
L'équivoque du sexe.
Ça te bande. Et ça te bande. Ça, encore, ça me met en route et en déroute. Ça, ça l'encourage. Il décourage. Hé, Banco, ça le gonfle.
Donc voilà un autre exemple de démembrement d'un centaure. Il est ivre et donc il n'a pas son intégrité. Un deuxième exemple de démembrement, c'est une séance de somnambulisme de Lady Macbeth. Elle est complètement folle, hein, puisqu'elle n'a plus de sommeil, etc. Et donc là, elle court. Est-ce qu'elle essaie de recoller les morceaux? En tous les cas, son centaure ne fonctionne plus comme il avait l'habitude de le faire. Elle essaie toujours de laver le sang de ses mains. Hein. Donc c'est par la bouche du cheval que... Elle essaie de laver les choses. Et bien sûr, le dernier démembrement, le dernier moment de démembrement, c'est celui de l'agonie de Macbeth. Donc, ring the alarm bell and at least we'll die with harness on our back. C'est mort. Voilà. Pour conclure, je vais juste revenir sur un terme. C'est celui de l'équivoque. Et en fait, dans le texte de Shakespeare, il y a le terme equivocator dans le discours du portier des enfers. Et puis, il y a equivocation, qui est le fait de tout qui veut dire son contraire et quelque chose qui est synonyme, mais en même temps qui ne veut rien dire. C'était l'infect est beau et le beau est infect. C'est ce qui définissait le monde de Shakespeare et de Macbeth en tous les cas au départ. Et dans Equivocation, je choisirais de le décomposer en Equi, le cheval, et Vocation, la voix qui était donnée par le théâtre du Centaure. Voilà. Merci.